Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Elle s'est faite connaître à travers le Moyen-Orient pour ses reportages sur le conflit israélo-palestinien. La journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh de la chaîne Al Jazeera a été tuée par balle ce mercredi. Elle couvrait des affrontements armés en Cisjordanie occupée. Paris exige qu'une enquête transparente s'engage dans les meilleurs délais. Je suis horrifié parce que c'est un assassinat. Cette journaliste est réputée mondialement. La situation est explosive et préoccupante. Des mots au micro de Radio Orient du président de l'Institut du Monde Arabe. Jack Lang sera l'un de nos invités. Cette demande de plusieurs organisations en France, dont la Fédération internationale pour les droits humains, elle demande au gouvernement le rapatriement des enfants français retenus dans des camps du nord-est de la Syrie. Nous écouterons le président d'honneur de la FIDH, maître Patrick Baudouin. La 9e réunion ministérielle, ce mercredi à Marrakech, de la coalition mondiale contre Daesh, coalition internationale créée en 2014 pour combattre le groupe État islamique. Ce sera vendredi prochain le début de la 28e édition du Maghreb Orient des Livres en partenariat avec Radio Orient, un événement jusqu'à dimanche à l'Hôtel de Ville de Paris. Dans votre journal, le romancier Anouar Ben Malek. Réaction de la France après la mort de Shirin Abu Akleh, journaliste d'Al Jazeera, tuée par balle ce mercredi matin alors qu'elle couvrait une opération des forces de sécurité israéliennes à Jenin, en Cisjordanie occupée. Elle portait un gilet pare-balles estampillé presse. La France fait part de sa condamnation et présente ses condoléances à sa famille et ses vœux de prompt rétablissement à son confrère Ali Al-Samoudi qui a été blessé. Paris exige qu'une enquête transparente s'engage dans les meilleurs délais pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Selon le ministère palestinien de la Santé et la chaîne Al Jazeera qui ont annoncé le décès, l'armée israélienne est à l'origine des tirs. Le gouvernement israélien émet lui l'hypothèse qu'elle ait été tuée par des tirs palestiniens. Le chef du bureau d'Al Jazeera à Ramallah a affirmé qu'aucune fusillade perpétrée par des Palestiniens armés n'a eu lieu, rejetant ainsi l'hypothèse israélienne. Le président de l'Institut du Monde Arabe, Jack Lang, déplore selon ses mots le décès brutal de la grande journaliste de la chaîne Al Jazeera Shirin Abu Akleh et évoque un drame épouvantable qu'il condamne avec la plus grande fermeté. Il réagit au micro de Radio Orient. Entretien avec Jack Lang.
Je suis horrifié. Horrifié d'abord parce que c'est un assassinat. C'est une atteinte à la vie d'une personne. Et cette personne est une journaliste qui, dans un régime de démocratie, mérite d'être protégée, respectée. Cette journaliste est par ailleurs réputée dans toute la région, elle est réputée mondialement. C'est une journaliste qui a, depuis des années, accompli un travail honnête, sérieux et professionnel sur l'ensemble des questions qui se posent dans tout le Moyen-Orient. Elle est par ailleurs palestinienne. Alors je ne sais pas si c'est la palestinienne qui était visée, si c'est la journaliste qui était visée, si c'est la personnalité du monde arabe qui était visée, si c'est l'appartenance de cette journaliste à Al Jazeera qui était visée. Bref, c'est un crime. C'est un crime horrible, abominable, inacceptable. Et malheureusement, au-delà du crime, c'est le sentiment que l'on a qu'aujourd'hui, la situation est là-bas explosive. Dangereuse, inquiétante, préoccupante. Et ces affrontements qui se multiplient en ce moment peuvent conduire à s'interroger sur les prochaines semaines. Alors on aimerait que les différents personnages de la région tout à coup prennent conscience que ce sont les populations qui sont en danger, qu'une véritable guerre peut s'installer. Et franchement, qu'au moins ce crime puisse provoquer un ressaisissement de la part des responsables politiques de divers ordres pour tenter de sortir de l'affrontement et de la violence.
Et vous craignez également que ce drame ravive les tensions?
Inévitablement. Je ne suis pas un pouce au crime, je ne suis pas un bout de feu, je suis ennemi de l'affrontement, mais en effet, on peut que ce crime ne suscite de nouvelles explosions ici et là. Donc il appartient aux responsables à tout niveau, à tous les niveaux, au plus haut niveau même, des pays concernés, de prendre conscience que aujourd'hui la coupe est pleine et qu'il faut absolument des initiatives. Je pense aussi d'ailleurs aux initiatives venant de pays européens ou venant des États-Unis, venant d'autres partenaires. Je suis préoccupé, en effet. Je suis pas le seul. D'ailleurs, nous sommes tous préoccupés et inquiets, à la fois horrifiés par le crime qui a été commis et très angoissés et très anxieux sur la situation.
La France exige ce mercredi après-midi qu'une enquête transparente s'engage dans les meilleurs délais pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. C'est aussi votre souhait, votre demande?
C'est la soi. Je pense que la demande française est légitime. Mieux connaître, mieux savoir, mais très vite. Il ne s'agit pas d'enterrer les choses dans une vague enquête. Donc je crois que ce que demande le gouvernement français est juste et légitime. En même temps, d'ores et déjà, nous ne pouvons pas ne pas constater qu'un crime a été commis contre une femme journaliste palestinienne qui accomplit son métier avec conscience, avec rigueur. Ça, c'est, les faits sont avérés. Alors, par ailleurs, pour qui, comment, je ne sais pas très bien, mais c'est bien qu'il y ait une enquête rapide menée de façon indépendante, c'est certain. Mais il faut faire vite parce que, encore une fois, la situation est très tendue et trop d'injustices se commettent, trop d'erreurs se perpétuent. Il faut absolument sortir de cette ornière et de ce risque de conflit qui s'aggrave chaque jour un peu plus.
Le président de l'Institut du monde arabe, Jack Lang. La lutte contre le groupe État islamique au cœur d'une réunion internationale à Marrakech, réunion co-organisée par le Maroc et les États-Unis. La ville accueille 84 chefs de la diplomatie et représentants d'organisations, des responsables dont les pays ont rejoint en 2014 une coalition qui a mené une action conjointe et coordonnée contre l'organisation terroriste. Une réunion avec notamment le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Plusieurs organisations demandent le rapatriement des familles de djihadistes français détenus en Syrie. Une demande faite la semaine dernière par la défenseur des droits, Claire Hédon, demande appuyée notamment par la Fédération internationale des droits humains, son président d'honneur, maître Patrick Baudouin, avocat au barreau de Paris.
Il y a à peu près encore 200 enfants français qui se trouvent donc retenus, détenus, on peut dire même dans ces camps du nord-est syrien contrôlés par les forces kurdes.
Vous choisissez le terme détention et non le terme rétention?
Oui, parce que on peut dire que on est dans un domaine de non-droit. C'est une zone de non-droit absolu. Ces enfants, qui ne sont évidemment pas responsables des choix de leurs parents, sont actuellement sans aucune justice qui puisse contrôler quoi que ce soit, sont détenus effectivement dans des conditions épouvantables, en même temps que leur mère est parfois seule, puisque certains ou certaines de ces petits garçons et de ces petites filles sont orphelins ou orphelines. Voilà, c'est une situation parfaitement scandaleuse. Il faut rappeler sans cesse que ces enfants sont de nationalité française et que donc la France a une obligation au regard de ses obligations internationale, je pense en particulier à la Convention sur les droits de l'enfant à laquelle la France est évidemment partie, a le devoir de protéger la vie et la sécurité de ses enfants. Il n'y a pas d'autre solution pour cela que de les rapatrier en France.
Vous évoquez des conditions de détention épouvantables. Quelles sont ces conditions?
Ces enfants sont détenus donc dans des camps qui sont dans une région avec déjà des extrêmes climatiques importants, c'est-à-dire très froid l'hiver, très chaud l'été, avec une absence de scolarisation, avec un manque de soins évident, une nourriture tout à fait sommaire. Donc, à tous les niveaux, ces enfants vivent dans des conditions qui ne sont nullement adaptées à leur développement, que ce soit physique ou que ce soit, j'ose même pas dire intellectuel, que ce soit sur le plan psychologique.
Ces enfants, vous le soulignez, qui ne sont bien entendu pas responsables des actions de leurs parents et notamment de leur père qui appartenait au groupe terroriste Daesh.
Absolument. Si vous voulez, rien ne peut justifier la position actuelle des autorités françaises est maintenue contre vents et marées, alors que voilà maintenant près de 2 ans que il y a de nombreux rappels à l'ordre et même des condamnations qui peuvent émaner justement du Comité des droits de l'enfant. Le Comité contre la torture est saisi également. Il y a un recours qui a été déclaré recevable devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, bien sûr, toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Et récemment, comme vous le savez, la Défenseure des droits en France a lancé une nouvelle fois l'alarme pour un rapatriement immédiat de ces enfants. Et malgré cela, la France résiste, alors que il est évident sur le plan du respect des droits de l'homme, sur le plan humanitaire, que cette position est injustifiable. Je crois qu'il n'y a pas besoin de plaider très longuement. Mais même si l'on se place sur un terrain beaucoup plus cynique, qui serait celui de la sécurité, il est beaucoup plus dangereux de laisser les enfants grandir dans ces camps dont ils sortiront de toute façon inévitablement un jour ou l'autre. On sait d'ailleurs que les Kurdes ne veulent ni ne peuvent garder ces camps ouverts. Ils l'ont fait savoir à de nombreuses reprises en demandant aux divers pays de rapatrier. Eh bien, ces enfants vont grandir, vont évidemment nourrir une haine absolue de la France et plus largement de l'Occident, et ils risquent de constituer un vivier d'avenir pour des djihadistes ou des terroristes qui ne cherchent qu'à les récupérer. Donc à ce niveau également, c'est tout à fait dangereux, et c'est pourquoi d'ailleurs de nombreux pays, européens en particulier, désormais, ont commencé ou continuent ou ont déjà rapatrier les enfants, je pense en particulier à plusieurs pays nordiques.
Maître Patrick Baudouin, avocat au barreau de Paris, président d'honneur de la Fédération internationale des droits humains. Au moins 12 personnes sont décédées en Irak de la fièvre du Congo cette année. Un nouveau bilan annoncé par les autorités. Elles tentent de juguler la propagation de cette maladie virale transmise par le bétail. La transmission à l'humain de cette fièvre hémorragique se produit soit par des piqûres de tiques, soit par contact avec du sang ou des tissus d'animaux. Les épreuves du baccalauréat ont débuté ce mercredi. Les lycéens passent les épreuves de spécialité de la nouvelle version de l'examen. Cela concerne plus de 520 000 lycéens. Depuis la réforme du bac en 2019, les filières S, L et ES n'existent plus. Les élèves de terminale ont le même enseignement commun et choisissent deux spécialités. Le début vendredi prochain de la 28e édition du Maghreb Orient des Livres, un événement jusqu'à dimanche à l'Hôtel de Ville de Paris, événement dont Radio Orient est partenaire. Le romancier Anouar Ben Malek, qui sera présent dès vendredi pour son dernier ouvrage, L'amour au temps des scélérats, édité par Emmanuel Colas. Anouar Ben Malek.
J'y vais pour deux raisons essentielles. D'abord, la première, parce que c'est un salon des livres. Je veux dire, comme les autres salons des livres que je fais, on rencontre des lecteurs, on discute, on dédicace, etc. Mais la seconde raison est peut-être la plus importante d'ailleurs, c'est parce que c'est le rendez-vous, c'est un rendez-vous amical, où je retrouve des amis à moi et c'est. Ce salon, c'est un peu comme une espèce de salon de tout ce qui s'intéresse au monde arabe, au Maghreb. Et il est donc très particulier dans le calendrier des salons, en tout cas pour moi. J'y vais surtout pour, j'allais dire, les heures où je ne suis pas de service, c'est-à-dire où je ne signe pas, où je ne donne pas une interview, etc. Pour aller à la cafette, discuter avec des écrivains amis, des gens que je n'ai pas vus depuis des années, etc. C'est d'abord pour son atmosphère chaleureuse que j'y vais.
Vous êtes l'auteur de « L'amour au temps des scélérats », édité par Emmanuel Colas. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous faire part de la genèse de « L'amour au temps des scélérats » ?
C'est en fait un livre qui m'a pris plusieurs années. C'est des années de remords, d'abandon. Au départ, voilà, pour vous dire la distance entre la décision de départ et le roman à l'arrivée, j'ai d'abord voulu écrire un livre sur les Indiens d'Amérique. Et puis avec le temps, avec l'abandon de ce projet, etc., j'ai écrit un livre sur la Syrie, mais pas la Syrie en tant qu'entité politique. C'est, pour moi, la Syrie, c'est un symbole d'un endroit outragé par l'intolérance religieuse, la guerre perpétuelle, la tyrannie meurtrière. C'est-à-dire que c'est la Syrie de maintenant, c'est aussi l'Allemagne des années 40, c'est aussi tous ces endroits-là où l'homme n'a plus eu de valeur, où les gens ordinaires ont beaucoup souffert sans que le reste du monde s'en émeuve beaucoup. Donc, C'est la Syrie, oui, d'un côté, mais c'est aussi n'importe quel endroit du monde où les gens souffrent, etc. Mais ce n'est pas c'est surtout un livre d'histoire d'amour, voilà. J'ai écrit des histoires d'amour de gens ordinaires pris dans des contextes extraordinaires. Et ce contexte, il va de l'époque de Sumer, où un de mes personnages principaux va donc commencer à agir, jusqu'à maintenant, la Syrie de Assad et de Daesh et de toutes les puissances qui s'affrontent, en fait, sur le dos du peuple syrien.
L'amour mêlé à la barbarie?
Oui, en montrant que, malgré tout, ça vaut la peine de vivre. C'est ce qui rachète, j'allais dire, pour utiliser un mot trivial, c'est ce qui rachète la saloperie de la guerre perpétuelle. Et puis de cette tyrannie qui est maintenant le lot commun de tous les pays, de ce vaste ensemble qu'on appelle rapidement arabo-berbère. Voilà, c'est j'ai aussi voulu écrire sur la fascination morbide que les croyants ont envers ceux qui sont prêts à assassiner leurs proches, même leurs fils, parce que ils assimilent ça à l'obéissance, à une puissance suprême. Cette justification, tous les fanatiques de toutes les époques l'ont utilisée pour expliquer leurs propres crimes. Par exemple, Daesh, les gens de Daesh pouvaient exécuter leurs proches en disant qu'ils obéissaient à Dieu. Et ça a été un des ressorts essentiels du livre. Mais j'ai aussi voulu montrer dans ce livre que malgré tout, il y avait des choses qui pouvaient nous sauver de cette barbarie, au moins momentanément. La puissance de l'amour, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi la puissance de l'art. Par exemple, un de mes personnages, une apprentie artiste, rêve de ressembler à Asmahan. Et Tammuz, ce personnage à la fois c'est diable, mais pas diable, etc., l'y aide. Et je voulais montrer que cet endroit du monde n'est pas seulement le désespoir absolu. Il l'est en partie, mais il y a aussi l'illumination de l'art, de l'amour, de toutes sortes d'amour.
Le romancier Anouar Ben Malek, son dernier ouvrage, L'amour au temps des scélérats, édité par Emmanuel Colas. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h et 23h est Mams Yaffa, adjoint au maire du 18e arrondissement de Paris, chargé des sports, Jeux Olympiques et Paralympiques et candidat aux législatives dans la 17e circonscription de Paris. À 19h15 et 23h15, Loïc Barrière reçoit Roxane Lundy, conseillère municipale de Beauvais, membre de la direction générale de Génération et candidate de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale aux législatives. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.